France Inter.
Ce soir, ça ne va pas être trop difficile de deviner dans quel voyage je vais vous entraîner grâce aux premières notes de ce titre qui a marqué les débuts d'une fusion d'un genre nouveau. Beatles, bien sûr, il y a près de 60 ans déjà, en 1966, comme on ne les avait jamais entendus. C'est George Harrison qui avait écrit et interprété, sans les autres, cette chanson « Love You Too », dont le titre était un jeu de mots sur celui de la chanson qui les avait rendus célèbres 4 ans auparavant, « Love Me Do ». George, le petit frère, façon de parler, de Lennon et McCartney, dont les compositions n'avaient jusque-là figuré qu'avec parcimonie dans les albums précédents du groupe. Il avait ouvert dans la musique des Beatles une voix tout à fait nouvelle, celle de la musique indienne, d'une certaine musique indienne, dite hindoustani. La chanson figurait dans l'album Revolver, qui était paru en août 1966. Il n'y a pas une des 14 chansons de cet album qui ne soit pas extraordinaire. Chacune semble ouvrir d'ailleurs vraiment un nouveau monde. Les Beatles s'étaient engagés sur le plan des sonorités, des effets spéciaux sonores, vers une expérimentation sans précédent. Sans précédent, je précise bien sûr, dans le cadre de la chanson populaire. Alors, pour parer à une rafale d'emails tatillons que je sens se profiler, je précise que non, c'était pas la première fois qu'on entendait du sitar indien dans une chanson pop. George Harrison avait lui-même joué un solo de cet instrument dans le Norwegian Wood de John Lennon dans l'album Rubber Soul, des Beatles bien sûr, qui était paru l'année précédente. Et puis bien sûr, en 1966, deux mois avant la parution de l'album des Beatles, Revolver, on avait entendu Brian Jones jouer de cet instrument, le sitar, au sein des Rolling Stones dans le très célèbre Painted Black, qui avait été un tube et qui restait un classique. Mais, et ça n'a rien de désobligeant pour Brian Jones, au contraire, son usage du sitar était génial, mais c'était pour ainsi dire rester décoratif. Tandis que George Harrison, lui, s'était immergé dans une musique indienne particulière, la musique hindoustanie, qui le fascinait. Alors l'histoire avait commencé d'une manière assez inattendue, puisque sur le plateau de tournage du film Help, dans lequel jouaient les Beatles, un assistant avait engagé un groupe de musiciens indiens pour accompagner une scène du film qui se passait dans un restaurant. Et ces musiciens indiens s'étaient amusés à créer, dans leur style spécifique, un medley de chansons des Beatles. Alors les autres avaient trouvé ça très marrant, mais George, lui, a été totalement captivé. Il a voulu en savoir plus sur la musique indienne et son initiateur, ça on ne le souligne pas assez, son initiateur en la matière, ça a été le musicien californien David Crosby. Celui-ci faisait à ce moment-là partie d'un groupe qui s'appelait les Byrds avec un Y que certains avaient pu présenter comme la réponse américaine aux Beatles. Les Beatles et les Byrds avaient partagé en août 1965, une tournée britannique, et à cette occasion, David Crosby avait prêté à George Harrison un disque du maître de la musique classique indienne, le maître du sitar Ravi Shankar. Passionné par ce qu'il a entendu, George a fait l'acquisition d'un sitar et il a commencé à prendre des cours dans le cadre d'une association londonienne qui s'appelait le Asian Music Circle. Ce chemin allait conduire George Harrison à poursuivre son apprentissage bien au-delà, auprès du maître donc, de la musique hindoustanie, Ravi Shankar, qui allait d'ailleurs devenir son ami pour la vie. Dans cette chanson de l'album Revolver, Love You Too, Harrison a fait venir en studio un joueur de tabla, c'est ce petit double tambour typique de cette musique classique indienne, le tabla qui semble dialoguer avec les volutes du sitar. Et puis il est parvenu à greffer certaines figures de ce style particulier, comme circulaire, ce qu'on appelle le raga, à sa chanson qu'il avait initialement composée et interprétée à la guitare, et ça a merveilleusement fonctionné. George Harrison a ainsi été le premier à fusionner une certaine musique indienne à la chanson populaire occidentale et au rock en général. Ce qui allait le conduire à composer une musique de film, Wonderwall Music, qui allait présenter en partie une fusion rock et raga. Et d'ailleurs, c'est un album que l'histoire a surtout retenu parce que cet album qui est paru à la fin de l'année 68, juste quelques semaines seulement avant le célèbre double blanc des Beatles, a été le premier album solo à être signé par un membre des Beatles et aussi ça a été la première référence des disques Apple. L'actualité m'a donné envie d'explorer, très superficiellement, c'est un petit tour d'horizon, les prémices de la fusion rock et de la musique indienne. À quelle occasion ? Eh bien à l'occasion de la parution d'un tout nouvel album que signe Gorillaz, c'est l'association bien connue de Damon Albarn, le fondateur de Blur, avec son camarade dessinateur Jamie Hewlett. Et le nouvel album que ces deux-là ont fabriqué a été grandement centré autour d'un voyage en Inde qui a vraiment changé leur vie. Alors d'ailleurs, on retrouvera Gorillaz dans les émissions de demain et d'après-demain. Il y aura aussi un enregistrement exceptionnel de Damon Albarn qui interprétera deux chansons en s'accompagnant sur un piano à queue fourni par Radio France et il chantera, vous l'entendrez, deux titres de l'album The Mountain en avant-première puisque l'album ne sortira que vendredi prochain. Alors pour faire bonne mesure, je tenais tout de même avec les Beatles à vous faire entendre l'usage très inventif du sitar par Brian Jones des Rolling Stones. Brian Jones qui avait été initié en la matière par son ami George Harrison dans ce classique des Stones qu'est Painted Black.
Line of cars and they are painted black. With flowers and my love hope never to come back. Quickly look away. Like a newborn baby, it just happens every day. I look inside myself and see my heart is black. I see my red door, I must have it painted black. Maybe then I'll fade away. Green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, I'm a fool.
curiosité tout à fait surprenante, une version indienne instrumentale du classique des Rolling Stones, Jumpin' Jack Flash. Elle a été signée en 1970 par un musicien, alors pour tout vous dire, j'ignorais totalement l'existence, avant de préparer cette émission, Ananda Shankar, mort prématurément en 1999. Alors aucun lien, je le précise, avec son illustre homonyme Ravi Shankar. Ananda Shankar était un musicien indien dont les parents, un couple de danseurs, étaient originaires de l'actuel Bangladesh, et ceux-ci s'étaient fixés dans la région de l'Uttar Pradesh, c'est non loin de la frontière népalaise. Ananda Shankar a été un pionnier de la fusion du rock, en l'occurrence psychédélique, avec la musique hindoustanie, mais évidemment, lui, il faisait cette fusion non pas du point de vue occidental, mais du point de vue indien. L'album sans titre que Ananda Shankar a publié en 1970 est, pour le peu que j'ai pu en écouter, assez captivant, parce que c'est une fusion dont la perspective est l'inverse de la nôtre. Il a, alors d'après ce que j'ai appris brièvement, travaillé à Los Angeles à la fin des années 60, où, paraît-il, il aurait croisé Jimi Hendrix. En tout cas, son idée de greffer le sitar indien au nouveau son du rock de la période, et en particulier aussi d'ailleurs au premier synthétiseur Moog, était vraiment singulière et séduisante, ce qui explique que son album à Ananda Shankar de 1970 est une curiosité très recherchée par les collectionneurs. Par la suite, Shankar a mêlé le sitar au rhythm and blues, au funk, au jazz rock, et j'ai lu ça, certains DJ au Royaume-Uni se sont emparés de certains de ses titres dans les années 90, notamment un titre de Ananda Shankar qui s'appelle Dancing Drums, pour surprendre et enchanter les danseurs. Alors pour être parfaitement complet, quant à l'influence du raga et de la musique classique indienne sur le rock, il faudrait aussi évoquer la façon dont le guitariste Jeff Beck, dans le classique des Yardbirds, Heart Full of Soul, avait imité à la guitare électrique le son du sitar indien. C'était en 1965. Tout comme la chanson See My Friends, même année 65, chanson des Kinks, qui avait été inspirée à leur auteur, compositeur et chanteur Ray Davies, par un chant de pêcheur qu'il avait entendu sur une plage à Bombay à l'occasion d'une brève escale. Puis en parlant des mêmes Kinks, il faudrait aussi mentionner la chanson Fancy de 66, qui est d'inspiration purement indienne, et on y entend un sitar. Et puis, comment ne pas évoquer le rock psychédélique californien quand on pense à l'influence de la musique indienne sur le rock? Je vous ai parlé de l'initiateur de George Harrison, David Crosby, qui était curieux d'ailleurs de toutes les musiques du monde. Alors évidemment, Crosby est au cœur de tout ça, mais il faudrait aussi souligner la façon dont le groupe Grateful Dead, un groupe de la région de San Francisco, ouvert à toutes les expérimentations, avait greffé la musique classique indienne à sa pratique des musiques traditionnelles américaines, blues et country, puisqu'il y avait un caractère cyclique, répétitif et hypnotique du raga indien dans les improvisations psychédéliques de Grateful Dead, ce qui, en retour, a influencé les improvisations de Pink Floyd à la source du rock psychédélique britannique, sans parler du rock cosmique allemand. Enfin bon, tout ça, c'est vraiment à l'infini. Je pourrais faire des tas de liens dans tous les sens et ça prendrait beaucoup trop de temps. Cela dit, la fusion au sens propre du rock et du jazz, hein, aussi occidental, avec des musiciens et instrumentistes indiens, c'est bien plus spécifique. Exemple très très éclairant, le grand guitariste de jazz John McLaughlin, un anglais qui fut un des pionniers de la musique dite de fusion, a créé dans les années 70, parallèlement à son groupe Mahavishnu Orchestra, un groupe de fusion jazz et musique classique indienne tout à fait unique en son genre et qui s'appelait Shakti, au sein duquel il y a eu d'ailleurs un véritable échange, puisque le violoniste de Madras, El Shankar, encore un Shankar qui n'a rien à voir avec les autres, El Shankar a enseigné à McLaughlin le raga indien et les rythmes si particuliers des musiques hindoustanie et carnatique, qui d'après ce que j'ai compris ne sont pas tout à fait les mêmes, même pas du tout. Bon, inversement, McLaughlin a enseigné à El Shankar l'harmonie occidentale et le jazz. Entre parenthèses, les ponts entre la musique classique indienne et le jazz n'était pas entièrement nouveau, d'après ce que j'ai appris, puisque John Coltrane avait assimilé avec passion la musique de Ravi Shankar. D'ailleurs, il avait prénommé son fils Ravi. Voici un titre signé du groupe dont je vous parlais, Shakti, un guitariste anglais un violoniste de Madras, l'actuel Chennai au sud-est de l'Inde, côté golfe du Bengale, et un joueur de tabla de Bombay de l'autre côté, à côté ouest, au nord. C'était Shakti et ce titre « Come on baby dance » remonte à l'année 1977.
Very Good Trip, Mishka Assayas sur France Inter. Thank you.
curiosité, un titre qui s'appelle Madhuvanti, extrait d'un album publié en 1982 et qui s'appelait, c'est clair comme titre, Ten Ragas to a Disco Beat, 10 ragas sur un beat disco. L'auteur et interprète avait pour nom Charanjit Singh, un multi-instrumentiste qui avait participé à l'enregistrement de multiples musiques de films de l'industrie du cinéma de Bollywood. Et il avait été en particulier ce Charanjit Singh, un pionnier du recours au synthétiseur. En 1982, peut-être un peu avant, cet homme qui avait déjà dépassé la quarantaine avait fait l'acquisition de la célèbre boîte à rythme TR-808 du constructeur japonais Roland, cette boîte à rythme très 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 réputée à la source des débuts du rap new-yorkais, Run DMC, Public Enemy, enfin plein d'autres. Et puis il avait également fait l'acquisition, ce Charanjit Singh, du synthétiseur analogique Jupiter 8, hein, Jupiter 8 du même fabricant Roland qu'on avait pu entendre dans l'album Midnight Love de Marvin Gaye ou encore le Thriller de Michael Jackson, enfin, c'est les mêmes années, en 1982. Et l'idée de Charanjit Singh était simple au fond, reprendre des ragas classiques en remplaçant les notes et accords du sitar par des notes et accords de synthétiseur et remplacer les percussions faites par les tablas, tout simplement par des sons de boîte à rythme disco. Certains lui ont dit par la suite qu'il avait anticipé en faisant ça l'acid house, ce qui l'a évidemment beaucoup surpris. On poursuit ce voyage au cœur de la fusion entre rock, pop, électropop aussi et musique classique indienne, en retournant indirectement à George Harrison, qui fut, hein, comme on a vu, le premier visionnaire, hein, de toute cette affaire. En 2021, c'est il n'y a pas si longtemps, un journaliste de Calcutta, du nom de Ajoy Bose, a réalisé un documentaire qui a pour titre « The Beatles and India », hein, les Beatles et l'Inde, sur la légendaire visite des jeunes Anglais au début de l'année 1968 dans l'ashram du Maharishi Mahesh Yogi, c'était à Rishikesh, au pied des montagnes de l'Himalaya. Ou d'ailleurs, près de 60 ans après, Damon Albarn et Jamie Hewlett, un Gorillaz, ont fait une sorte de pèlerinage. Vous les entendrez nous en parler dans le Very Good Trip de demain ou d'après-demain, c'est selon l'endroit de l'interview, sur France Inter. En tout cas, l'argument de ce documentaire, The Beatles and India, ça donne envie. C'est un documentaire qui raconte les étapes progressives du lien des Beatles avec l'Inde et aussi, inversement, l'impact que les Beatles ont eu sur la jeunesse indienne et sa musique. Alors, pour la BO du film, eh bien, l'équipe a demandé à des chanteurs, chanteuses, musiciens, musiciennes de premier plan en Inde de reprendre des chansons des Beatles. J'ai été très séduit par cette reprise de The Inner Light. C'est une très belle chanson de George Harrison qu'on avait découverte en face B du 45 tours Lady Madonna, hein, des Beatles en 68. Hein, difficile d'imaginer d'ailleurs deux chansons aussi différentes dans leur style. Et cette version est une collaboration entre Karsh Kale et Anushka Shankar. Alors Karsh Kale, c'est un musicien new-yorkais d'origine indienne qui est mondialement connu, compositeur, orchestrateur très réputé. C'est un maître de la fusion musique classique indienne et électro. Il a réalisé notamment des remixes pour Sting, The Cure et U2, hein, c'est pour vous donner une idée. Il s'est donc associé, Karsh Kale, à la joueuse de sitar Anushka Shankar, qui n'est autre que la fille de Ravi Shankar, qui est d'ailleurs associé par ailleurs au nouvel album de Gorillaz. Karsh Kale et Anushka Shankar dans cette très belle reprise de The Inner Light de George Harrison, c'était en 2021. The Sun Won't Set, Le Soleil Ne Se Couchera Pas, une collaboration émouvante qui unissait en 2013 les deux filles de Ravi Shankar, Norah Jones et Anushka Shankar. Elles sont en effet demi-sœurs et Ravi Shankar avait 59 ans en 1979 quand est née Norah, dont la mère est américaine, et donc 61 ans en 1981 quand Anushka est née d'une autre mère d'origine tamoule. Anushka Shankar est aujourd'hui âgée de 44 ans, c'est une musicienne de premier plan, une virtuose du sitar qui s'est distinguée à de multiples reprises. On l'a remarqué notamment pour un album de fusion de musique classique indienne et électro-ambient qui s'appelait Rise, qui était paru en 2005, et puis aussi un album d'une autre fusion, Raga et Flamenco, Traveler, qui était sorti en 2011. Anushka Shankar, qui vit aujourd'hui à Londres depuis assez longtemps, a travaillé avec son père dès sa plus tendre enfance, son père Ravi Shankar, mort en 2012, à l'âge de 92 ans, et dès l'enfance, oui, Anushka l'accompagnait au tanpura, c'est un instrument à quatre cordes qui ressemble par sa forme au sitar. Anushka Shankar est, comme je le disais, l'une des participantes indiennes à l'album The Mountain de Gorillaz, dont on entendra quelques extraits dans les émissions de demain et après-demain, ainsi qu'une interview de Damon Albarn et Jamie Hewlett. Je ne pouvais pas oublier ce soir une collaboration mémorable, celle du grand guitariste californien Ry Cooder. On le connaît pour la musique du film Paris, Texas de Wim Wenders, puis surtout pour ses duos éblouissants avec le grand guitariste malien Ali Farka Touré. Et bien voici un duo moins connu de Ry Cooder, c'était avec le guitariste de Jaipur, Rajasthan, hein, V.M. Bhatt, dans Ganges Delta Blues, le blues du Delta du Gange, une association qui remonte à l'année 1992. Et tout de suite après, un autre genre de blues, Bangalore Blues, le blues de Bangalore, la grande ville de la tech indienne dans l'état du Karnataka, dans le sud, un titre signé par un groupe indien de Bangalore, justement, qui est né au début de notre siècle, et un groupe qui s'appelle Thermal and Quarter, je ne sais pas tout ce que ça veut dire, je crois que c'est un jeu de mots avec une vieille comptine anglaise, mais tout de suite, c'est Ry Cooder et VM Bat dans le blues du Delta du Gange.
Very Good Trip sur France Inter.
It's getting warm here now. Just look up at the sky. Clouds of dreams and smoke. Street side stir. Please. beneath a coat of beeswax. Got to pay your number, man. Got to pay your service tax. You can hear me grouse, and now you have the news. I've got a bad case of there's a secret handshake of the Bangalore soul. That slow, sweet humor, that cheeky hyperbole. Our temples of food are oases of coffee. Give me that dog-eared book under a tree. Now you hear me sigh, so you have the news. I've got a bad case of Bangalore blues.
Swaminath Paripalaya Shumam स्वामीनाथ परिपालय शुमां स्वप्रकाश वल्लेश गुरु गुहा स्वप्रकाश वल्लेश गुरु गुहा देव सनेश स्वप्रकाश वल्लेश गुरु गुहा देव सनेश स्वामीनाथ परिपालय शुमां स्वामीनाथ परिपालय शुमां
version indienne d'une certaine transe néo-psychédélique la fin du siècle dernier, puis ça se termine de manière assez inattendue, plutôt comme du Steven Wilson, comme une sorte de musique dite progressive des temps actuels. C'est relativement récent, 2012, et ce titre s'appelle Mo-Funk, et c'est l'œuvre d'un groupe indien de New Delhi qui s'appelle Advaita. C'est tout pour ce soir. J'espère que c'est pas trop frustrant d'avoir fait un tour ultra rapide de la fusion musique classique indienne et rock. Il y a des choses très variées ce soir. Et demain, ben, ça sera tout autre chose puisque nous retrouverons Gorillaz. Il y aura une interview, la première partie d'une interview avec Damon Albarn et Jamie Hewlett. C'est tout pour ce soir. Je vous dis à demain. Je remercie chaleureusement Vincent Godard et Sofiane Aktib qui ont réalisé et mis en onde de l'émission de ce soir. Merci également à Sébastien Lorieux pour le site internet de l'émission, ainsi qu'à Romain Couturier à la discothèque de Radio France.